Mais il y a un problème qui nous touche aussi, nous, en mesure où nous sommes une composante de ce protestantisme. Je crois que la première remarque que l'on peut faire, c'est que depuis quelques dizaines d'années, le protestantisme français traverse une crise d'identité et qu'il a énormément de difficultés à se situer et à comprendre quelle est sa raison d'être au sein de la société française. D'après les derniers chiffres qui étaient donnés justement cette semaine par le pasteur Monsara à l'occasion d'une interview à la radio concernant le 60e anniversaire de la révocation de l'Édit de Nantes, il y aurait 800 000 protestants en France, c'est-à-dire 800 000 protestants répertoriés, c'est-à-dire qui ont au moins une fois dans leur vie donné signe de vie et se sont signalés comme protestants par une pratique religieuse, quelle qu'elle soit. Je vous rappelle que le sondage de l'IFOP qui avait été effectué il y a plusieurs années par l'hebdomadaire La Vie catholique donnait un nombre de 2 millions de protestants, ou plus exactement de personnes qui en France se disaient proches du protestantisme. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence entre les chiffres officiels qui sont ceux de la Fédération protestante et puis les chiffres qui sont ceux de gens qui se disent donc proches du protestantisme. Alors il faut ajouter à cela environ 250 000 protestants qui ne sont pas membres d'églises appartenant à la Fédération protestante, ce qui fait grosso modo environ 1 million de protestants en France. Ces protestants sont regroupés en environ 1800 communautés locales, paroisses, etc., desservis par 132 ministres, 1800 communautés ou paroisses, oui, 132 ministres, il y a de cela, quand ces chiffres ont été publiés, donc il y a déjà de cela peut-être 2 ou 3 ans, environ 300 étudiants dans les différentes facultés de théologie, écoles bibliques, instituts bibliques, donc 300 étudiants qui se préparaient au ministère pastoral. Voilà en gros pour ce qui est des chiffres. Alors, maintenant, au point de vue démographique, la population protestante est une population dont l'âge est relativement élevé. En tout cas, il est plus élevé que la moyenne française. Donc c'est une population vieille, dans ce sens que les jeunes, le renouvellement ne se fait pas au niveau de la jeunesse, et que, en particulier au niveau de la jeunesse, dès la confirmation, pour ce qui est des églises réformées et luthériennes, eh bien les jeunes disparaissent dans la nature. Alors, comme le constatait le pasteur Monsara, 800 000 protestants, c'est le nombre qu'il y avait en France avant la révocation de l'Édit de Nantes. Donc, depuis la révocation de l'Édit de Nantes, le protestantisme n'a pas augmenté en nombre. Par contre, la population française a plus que doublé. Et c'est pourquoi ce chiffre pourrait faire illusion, en disant, eh bien, la population protestante française s'est maintenue malgré tous les avatars de l'histoire, malgré la révocation des dignants, malgré les persécutions qui en ont suivi. En fait, ce serait jugé d'une manière illusoire. Il n'y a pas... En fait, il y a un net recul de la population protestante parce que l'évolution de la population protestante aurait dû suivre la courbe de l'évolution de la population française en général. Donc il y a tassement, il y a une inquiétante stagnation, et même, je crois que l'on peut dire, un net recul depuis la révocation des dignes. Ce recul est dû à plusieurs causes. Celle qui est le plus souvent invoquée par les autorités protestantes officielles, c'est celle de l'exode rural. Jusqu'au siècle dernier, jusqu'au début de ce siècle, disons à peu près jusqu'à oui, surtout jusqu'au début du siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le protestantisme français était un protestantisme essentiellement rural, concentré justement dans de grandes régions rurales, le Midi, la région des Cévennes, Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine, le Poitou, l'Alsace-Lorraine. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, et surtout de la Deuxième Guerre mondiale, a eu lieu un important exode rural qui a fait que de nombreux protestants ont quitté leur paroisse pour se retrouver dans des villes où ils n'ont pas été récupérés par les paroisses urbaines. Et là, on retrouve le même phénomène, finalement, que celui qui caractérise aussi le catholicisme. Deuxième cause de ce recul, c'est, à l'image du catholicisme également, la sécularisation, la laïcisation de la société, les conflits entre la science et la foi, les progrès de la technique qui ont fait que beaucoup de protestants ont perdu toute foi, et donc toute référence religieuse. Et puis, troisième élément qui n'est pas négligeable, c'est le problème des mariages mixtes. La communauté protestante est tellement restreinte, notamment dans les vastes régions où maintenant le protestantisme se présente comme un protestantisme de diaspora. Les grandes régions protestantes ont pratiquement cessé d'être. Les grands terroirs protestants, Cévennes, Languedoc-Roussillon, Poitou, etc., ont une population vieillissante qui est restée à la terre. Et la plupart des générations plus jeunes se retrouvent dans des villes, dans des régions où, très souvent, ils sont à peu près les seuls protestants sur un rayon très vaste, ce qui pose évidemment d'énormes problèmes, parce que ça interdit pratiquement toute vie religieuse, et c'est ce qu'on appelle le problème de la dissémination. Nous avons, au sein de l'Église réformée notamment, d'immenses paroisses de disséminés, c'est-à-dire que, par exemple ici en Bretagne, la paroisse réformée de Vannes-Lorient est une paroisse de disséminés, dans ce sens que si le gros de la paroisse se trouve concentré à Lorient et à Vannes, vous avez des protestants, deux ou trois familles qui habitent Ploërmel, deux ou trois autres qui habitent Pontivy, d'autres qui habitent Josselin, etc., mais pratiquement seuls dans leur ville, ce qui évidemment rend difficile pour les gens en particulier qui ne sont pas convertis et qui sont encore moins consacrés de participer au culte, etc., et aux activités spirituelles de leur église, et en même temps qui font que ces gens qui sont isolés ont du mal, si j'ose dire, à marier leurs jeunes. Et ne trouvant plus dans leur milieu la possibilité de trouver un conjoint, beaucoup de ces jeunes protestants, de la dissémination et de la diaspora protestante en particulier, contractent alors des mariages mixtes, et des mariages mixtes qui, en général, sont au détriment de la partie protestante, parce qu'il est beaucoup plus facile, évidemment, de se fondre dans la majorité catholique que de garder une identité qui se trouve d'autant plus affaiblie que l'on vit justement dans cette situation de dissémination. Ou alors, lorsque le mariage se fait dans le sens de la partie protestante, eh bien, la situation de dissémination fait que finalement, au bout d'une ou deux générations, toute référence religieuse disparaît et que, en général, le couple sombre en indifférence et les enfants qui en naissent également. Donc, les mariages mixtes sont un énorme problème au niveau du protestantisme. Par exemple, il y a quelques années de cela, sur 3910 mariages qui avaient été enregistrés par les autorités protestantes, il y avait 3910 mariages mixtes qui avaient été contactés par les protestants, contre 1612 mariages protestants qui avaient été célébrés sur la France entière. Vous voyez, donc la disproportion des chiffres. 3910 mariages mixtes contre 1612 mariages protestants. Alors, un simple calcul nous permet de comprendre que, eh bien, par le seul jeu des mariages mixtes, d'ici un certain nombre d'années, si la tendance ne se renverse pas, le protestantisme aura disparu, aura été absorbé par le catholicisme. Par ce seul phénomène, sans parler du déclin de la foi, sans parler de la sécularisation, sans parler du renouveau de l'Église catholique, qui attire de plus en plus de jeunes protestants aujourd'hui. Donc, nous avons affaire ici à une communauté menacée. Il y a un problème de transmission de l'Évangile aux jeunes générations en particulier, aux enfants. Le dépôt ne se transmet plus. Et pour beaucoup de jeunes protestants, eh bien, toute vie religieuse et toute référence au protestantisme s'arrête à 14 ans, au moment de la confirmation. Donc, le problème qui se pose devant le protestantisme français est celui de sa survie physique. Au-dessous d'un certain seuil numérique, l'existence d'une communauté est menacée. Au-dessous d'un certain seuil, l'existence d'une communauté n'est finalement plus possible. Et là, c'est un des plus gros problèmes devant lequel le protestantisme aujourd'hui se trouve confronté. D'autant que le protestantisme officiel ne se renouvelle plus que par, justement, filiation. On est protestant de père en fils, l'évangélisation étant pratiquement inexistante, mis à part, justement, les églises qui sont en dehors de la fédération protestante, qui sont finalement le seul espoir d'un renouveau du protestantisme, les églises évangéliques en particulier. Alors, à côté de l'aspect démographique, il y a l'aspect financier. En fait, j'avais dit une bêtise hier quand j'ai dit que le protestant français donnait à son église sur un an une moyenne de 80 francs par an. La contribution du protestant moyen, toutes tendances confondues, évangéliques et autres, n'est-ce pas, eh bien, c'est 80 francs par an et non pas 75 francs comme j'avais dit, c'était un peu plus. Ils sont un peu plus généreux que ce que j'avais dit. 80 francs par an par personne. Alors, bien entendu, dans ce chiffre-là, il y en a qui donnent beaucoup moins et il y en a qui donnent beaucoup plus dans les milieux évangéliques. Donc, ça, c'est une moyenne générale, bien sûr. Mais, comme le disait le doyen Mel, qui a été l'auteur du rapport où j'ai publié ces chiffres, le protestantisme français pourrait donner 10 fois plus qu'il ne le fait sans atteindre les limites du sacrifice. J'ai bien aimé cette expression-là. Donc, si vous voulez, il y a un engagement financier qui est extrêmement faible. Et malgré cela, eh bien, les œuvres protestantes, malgré le peu de moyens dont elles disposent, sont tout de même extrêmement nombreuses. Il suffit de prendre, par exemple, un annuaire comme celui de la France protestante, l'annuaire officiel de la Fédération protestante, pour voir le nombre incalculable d'œuvres pour les malades, pour les vieillards, pour les enfants, les journaux, les publications, les maisons d'édition, etc., qui vivent finalement de ces 80 francs que 800 000 protestants donnent chaque année au protestantisme français. Ça paraît vraiment inouï que finalement tant d'œuvres qui sont souvent des œuvres qui absorbent énormément d'argent, puissent vivre sur des moyens aussi limités. En fait, certaines de ces œuvres ont d'autres sources de revenus, la rentabilité par exemple, de type commercial, ou bien parfois sont subventionnées par l'étranger, par le catholicisme, ou bien tout simplement par le tout venant, comme l'Armée du Salut, par exemple, qui organise des quêtes sur la voie publique. Alors, évidemment, ces chiffres-là sont un petit peu à prendre avec un certain nombre de précautions. Alors, ce qui caractérise aussi ce protestantisme, c'est que son engagement est beaucoup plus sécularisé que dans le passé. Les œuvres qui sont les siennes sont beaucoup moins des œuvres uniquement à caractère religieux, comme par exemple c'était le cas au siècle dernier, où on assistait à toutes sortes de mouvements d'évangélisation. J'ai cité l'Armée du Salut tout à l'heure, mais on pourrait citer aussi la mission populaire, la mission auprès des travailleurs de l'industrie, les associations d'évangélisation auprès des étudiants, les éclaireurs unionistes qui à cette époque-là étaient un mouvement d'évangélisation, etc., etc. Maintenant, on a de plus en plus affaire à des mouvements à caractère social, voire parfois à caractère politique, tels que la CIMAD, tels que la Croix-Bleue, qui au départ aussi était un mouvement d'évangélisation des buveurs, et qui maintenant est beaucoup plus un mouvement à caractère uniquement social. Il y a donc une sécularisation des œuvres à caractère protestant. Ne parlons pas de la feuille, que nous connaissons tous, et nous connaissons également aussi très bien son évolution. Alors, justement, cet engagement qui a de plus tendance à se séculariser, de plus en plus tendance à se séculariser, représente aussi un élément inquiétant pour le protestantisme, parce que ce protestantisme micro-minoritaire, ultra-minoritaire, devrait plutôt rechercher à durcir son identité. Et là, au contraire, cette identité se dilue dans toutes sortes d'œuvres qui perdent de plus en plus la marque et la spécificité protestante pour devenir tout simplement des mouvements à caractère uniquement social, laïque. Ce qui prouve qu'il y a cette crise d'identité dont nous parlons tout à l'heure. Le protestantisme a perdu conscience du caractère irremplaçable dans la société française de son message, de sa fonction et de sa vocation. Et cette conscience qui était la sienne encore au siècle dernier et qui était extrêmement vive, c'est à la fin du XXe siècle totalement estompée. Donc trois facteurs extrêmement inquiétants. L'affaiblissement démographique, numérique, le peu de moyens financiers et la manière dont sont gérés en quelque sorte ces moyens financiers et humains, ce potentiel humain et financier limité qui se trouve investi dans un nombre important d'œuvres qui n'ont plus de spécificité protestante. Alors, à ce caractère, à ce tableau déjà sombre, s'ajoute un autre problème. Celui de la presse et de l'édition protestante. Nous savons que le protestantisme est né avec l'imprimerie. Ce n'est pas un hasard. Dès le XVIe siècle, le protestantisme s'est voulu la religion du livre et de l'écrit. Et dès le départ, il y a eu, sur le plan de l'édition, un effort très important qui a été entrepris au niveau de la diffusion de la Bible, l'idéal étant que chaque protestant puisse, en tout cas à cette époque-là, peut-être pas chaque individu, mais chaque famille en tout cas, puisse posséder un exemplaire des Saintes Écritures et avoir une érudition suffisante pour pouvoir la lire. D'où la multiplication des écoles pour que chaque enfant, même parmi les plus humbles foyers, et la possibilité d'avoir accès à l'Écriture sainte. Avec le temps et avec les progrès techniques dans le domaine de l'imprimerie et de l'édition, donc la vulgarisation de l'écrit, les protestants ont été à la pointe justement de la diffusion de l'imprimé. Et c'est ainsi qu'au XVIIIe, puis au XIXe siècle, on a vu se multiplier une presse protestante et des maisons d'édition protestantes très importantes, non seulement en ce qui concernait la diffusion de la Bible, mais également en ce qui concernait la diffusion du message protestant, de livres spirituels, d'écrits de toutes sortes, de traités. Et ce qui était une des caractéristiques du siècle dernier, c'était le travail des colporteurs. Les colporteurs, au siècle dernier, ont fait un travail d'évangélisation énorme. Et les progrès du protestantisme, au point de vue numérique, qui ont marqué le XIXe siècle en particulier, sont dus en grande partie au travail des colporteurs. Ces gens qui, soit avec des roulottes tirées par les chevaux à l'époque, soit tout simplement à pied, avec des sacs remplis de bibles et de traités divers, allaient de maison en maison, proposant des exemplaires de la Bible, du Nouveau Testament, ou simplement pour les gens les plus modestes d'exemplaires de tel et tel évangile, évangile de Jean, évangile de Luc, etc. Ou des traités, des petits livres, ou même des livres pour enfants, etc. Et il y avait un énorme travail qui a été effectué de cette manière-là par les colporteurs bibliques. Au XXe siècle, eh bien, la presse protestante, l'édition protestante est en crise. Alors qu'au siècle dernier, il y avait des journaux protestants à grand tirage, qui étaient même lus par des non-protestants, qui éventuellement prenaient position sur les grands problèmes de l'heure, etc. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'existe pratiquement plus de grands journaux protestants. Il y a, juste après la guerre, le journal Réforme avait essayé d'être la continuité de ces différents journaux qui existaient jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et qui avaient disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Réforme n'a pas réussi à remplir ce rôle. Différentes tentatives ont été faites par la suite, par un magazine qui se nommait Horizon Protestant et qui aussi a échoué. Aujourd'hui, le christianisme au XXe siècle essaye de remplir plus ou moins bien ce rôle, mais il n'existe aujourd'hui aucun journal en France, si ce n'est Expérience, qui dépasse les 3000 abonnés. Aucun. Alors, pour 800 000 personnes, les journaux, donc, les plus grands journaux ne dépassent pas 3000 abonnés. Alors, vous voyez ce que ça représente également. Quelle conclusion faut-il en tirer? Tout d'abord, que le protestant ne lit plus beaucoup, ne s'intéresse plus à l'imprimé. L'influence de l'audiovisuel, l'influence de la sécularisation a joué énormément, mais comme le remarquait le doyen Mel, pour un peuple qui est né de l'écrit et de l'imprimerie, voir dans quelle situation se trouve aujourd'hui la presse protestante en général, est aussi un indice qui ne laisse pas d'être inquiétant. La crise économique qui sévit depuis les années 70 a rendu encore plus critique la situation de bien des journaux protestants. On lit de moins en moins et on s'intéresse de moins en moins à ce qui est écrit. Quant à l'édition de livres, elle est pratiquement impossible aujourd'hui en France sans l'appui de l'étranger ou des maisons d'édition catholiques. Ce qui fait que la littérature protestante de langue française est extrêmement pauvre, car il y a de multiples ouvrages qui n'ont jamais été édités, faute de moyens. Alors, quelles sont les conséquences ? D'abord, pour le peuple protestant lui-même, qui n'a plus l'occasion de trouver une nourriture abondante qui lui permettrait donc d'approfondir sa foi, notamment, encore une fois, au niveau des jeunes générations. Et deuxièmement, deuxième conséquence vis-à-vis de l'extérieur cette fois-ci, le message protestant ne passe plus. Il n'y a plus de relais pour diffuser la pensée protestante au sein de la société française. C'est tout le problème du rayonnement du protestantisme qui se trouve ainsi posé. Et les résultats de cette non-communication se constatent en ce sens que le protestantisme est de moins en moins perçu comme un phénomène spécifique par la société française. Au siècle dernier, le protestantisme était un des pôles d'intérêt de la société. On en parlait. On en parlait bien ou on en parlait mal, on en parlait plutôt mal que bien, mais on en parlait. Aujourd'hui, vis-à-vis du protestantisme, il y a une indifférence quasi généralisée de la part du grand public, de la part des médias, qui s'intéressent au protestantisme uniquement lorsque ce dernier prend des prises de position politique en flèche, ou des positions à caractère éthique qui sont aussi quelque peu originales. Mais le protestantisme, en tant que phénomène en soi, n'est plus un objet d'intérêt. Et ceci est inquiétant. C'est pourquoi, finalement, ce qui se passe en ce moment avec l'anniversaire de la révocation des Nantes est extrêmement positif, même si on peut déplorer certains aspects de la manière dont les choses sont retransmises par les médias. Mais il y a en tout cas une occasion pour le public français de reprendre conscience qu'il existe des protestants en son sein, qu'il existe une communauté protestante en son sein. Alors, le protestantisme n'intéresse plus. Le protestantisme ne sait plus que dire à la société française de nos jours, et il ne sait pas comment le dire. Il n'a plus les moyens de le dire. Alors, il y a bien la radio et la télévision, mais là aussi, il y a une inadéquation radicale du message protestant par rapport à la télévision. Et ça, c'est très bête. Les réalisateurs de la télévision protestante s'arrachent les cheveux pour essayer de trouver des émissions qui soient intéressantes, d'abord parce que la plupart d'entre eux sont des gens qui n'ont plus aucune foi, qui ne savent pas que de quoi dire, et puis deuxièmement parce que je crois qu'il y a une inadéquation fondamentale du message public avec l'audiovisuel, comme l'a fort bien montré Jacques Ellul dans son livre La parole humiliée. Ce qui fait que le protestantisme, étant privé de son support naturel qu'il écrit, ne retrouve plus par les moyens audiovisuels modernes l'impact qu'il avait du temps où l'écrit était roi. Alors, il y a donc cette crise d'identité qui est interne au protestantisme, mais qui lui est aussi externe, une crise d'identité parce que l'opinion publique ne lui renvoie plus aucune image de lui-même. Et ceci est aussi un phénomène qui est extrêmement grave pour une minorité. Finalement, la seule référence que l'on trouve au protestantisme dans les médias, en dehors, encore une fois, des prises de position politiques, eh bien, c'est l'expression secte protestante dans le contexte de la guerre anti-secte que nous avons analysée depuis un certain temps. Et il n'est pas jusqu'à ces derniers jours où, dans le cadre des émissions relatives à la révocation de l'édit de Nantes, dans une émission consacrée au refuge, un groupe d'arbistes était présenté comme une secte dont le lieu de culte ressemblait de beaucoup plus à un banquet qu'à une église, qui ne se laissait pas approcher facilement, qui étaient des gens étonnants, étranges, etc. Et évidemment, il y avait là une désinformation totale. Processus de désinformation totale. Autre élément d'intérêt, c'est le catholicisme. Le catholicisme progressiste est le seul qui s'intéresse au protestantisme en soi, car il voit dans le protestantisme un laboratoire de tout ce qui est à l'avant-garde, que ce soit au niveau des théologies de la libération, que ce soit au niveau des méthodes modernes d'exégèse de la Bible, que ce soit au niveau des prises de position éthiques. Les catholiques progressistes s'intéressent au protestantisme pour cette seule raison. Et d'aucuns lui disent souvent, eh bien, ne disparaissez pas trop tôt, parce que nous avons encore besoin de vous. J'ai entendu ça de mes propres oreilles. C'était tout un programme en même temps. C'est-à-dire, dans le fond, eh bien, on est prêt à vous faire du bouche à bouche aussi longtemps qu'on aura besoin de vous. Et quand on n'aura plus besoin de vous, eh bien, on vous laissera tomber comme une vieille chaussette. Et puis là, vous n'aurez plus qu'à disparaître. Alors, il y aurait pu y avoir un tournant et un renouveau par l'intermédiaire du mouvement charismatique. Le mouvement charismatique, au début des années 70, est apparu pour un certain nombre de gens au sein du protestantisme comme la planche de salut qui permettrait un nouveau souffle et un nouvel élan. Hélas, le protestantisme français, à l'inverse du catholicisme, qui a tout de suite compris l'intérêt que le mouvement charismatique pouvait présenter pour le renouveau de l'Église et qu'il a exploité à fond, le protestantisme, lui, est resté étranger au mouvement charismatique, n'a pas compris ce qu'il pouvait représenter pour lui et l'a marginalisé. Le protestantisme s'est définitivement fermé au mouvement charismatique. Le président de l'Église réformée de France, le président de l'Église luthérienne de France, dans un dernier colloque qui a eu lieu après le grand colloque de janvier 84, un colloque plus restreint des responsables, ont ouvertement pris position contre le mouvement charismatique, disant qu'il niait la possibilité qu'il y ait de faire des expériences conformes à ce que la Bible annonce. Il refusait même l'idée qu'il puisse y avoir de telles expériences. C'était une prise de position a priori, mais qui était en même temps une prise de position sans appel, qui fait que dans ces églises-là, évidemment, le réveil charismatique ne pourra rester qu'un phénomène ultra-marginalisé. Ce que nos frères réformés charismatiques et luthériens charismatiques regrettent et déplorent, mais contre lequel, hélas, il faut bien se rendre en évidence, dans l'état actuel des choses, ils ne peuvent rien. Alors, c'est regrettable parce que ce qui aurait pu être la voie du salut pour un protestantisme déliquescent a finalement été rejeté. Et il est certain que dans une perspective uniquement humaine, l'avenir du protestantisme français est bien sombre. Alors, voyons maintenant ce qu'est le comportement du protestant en tant qu'individu. Nous avons d'abord vu quelle était la crise d'identité du protestantisme en tant que minorité au sein de la société française. Maintenant, quelle est l'attitude du protestant moyen, du protestant dans l'Église? Eh bien, nous pourrions dire que le peuple protestant français est essentiellement composé de ce que nous pourrions appeler les silencieux. Le protestantisme français s'exprime par la voix d'une minorité de clercs et d'intellectuels de haut vol, très souvent, qui s'expriment au nom du protestantisme, mais qui sont très souvent déconnectés de la base et dont les prises de position sont loin de représenter ce que la base souhaite et ce que la base pense. Mais la base, qui est souvent composée de gens simples, de gens qui n'ont pas le niveau intellectuel de ces clercs, n'ose pas ouvrir la bouche, n'ose pas prendre position contre ce qui se fait en son nom, et représente par conséquent une grande masse de silencieux, qui subit une évolution plutôt qu'elle ne l'accompagne, qui subit une évolution qu'elle supporte d'ailleurs de plus en plus difficilement. Un sondage avait été effectué par la Fédération protestante il y a quelques années au sein de cette majorité de silencieux, et le sens de ce sondage était en gros celui-ci: que pensez-vous que devrait faire le protestantisme aujourd'hui? Et le bon sens des réponses saute aux yeux. Et c'est là qu'on voit que le peuple protestant a encore, n'est-ce pas, une dimension spirituelle que souvent ses élites, ses conducteurs n'ont plus. Et c'est ainsi que la majorité de ces silencieux interrogés sur ce que devait faire le protestantisme aujourd'hui répondait « maintenir ». Maintenir ce qui est. Le protestant moyen est conscient que son identité, que son existence est en danger et qu'il y a une urgence première de réaffirmer cette identité et de la maintenir. Et les réponses faites insistaient sur l'exigence de fidélité, fidélité au passé, le souci de la pureté doctrinale, le souci de rester fidèle à son identité. Ça ne veut pas dire que le peuple des silencieux était figé sur le passé. Il était conscient de la nécessité d'une certaine rénovation, mais cette rénovation devait se faire dans la continuité et dans la fidélité. À la question qu'est-ce que le protestantisme ne doit pas faire, alors il y avait deux réponses qui revenaient pratiquement spontanément, de la politique et de l'œcuménisme. Le peuple des silencieux est fatigué des prises de position politiques de ses conducteurs, en sorte que la politique est maintenant devenue la grande préoccupation des élites du protestantisme français, et deuxièmement, le bon sens du peuple protestant lui a permis intuitivement de sentir tout le danger qu'il y a au travers de l'œcuménisme. Alors, il y a un fossé entre les autorités et la base. On retrouve ça également au niveau du vote des protestants. Les élites, les pasteurs votent à gauche en général, et le peuple a tendance à voter au centre droit. Donc il y a une confiscation du pouvoir par les intellectuels au sein du protestantisme français et un étouffement des revendications de la base. Alors, ce qui frappe dans les revendications de la base, je le notais il y a un instant, c'est l'attitude vis-à-vis du catholicisme. Il y a un anticatholicisme profond au sein du peuple des silencieux, qui a ses racines dans le passé, mais également dans un passé récent. Et le passé récent, c'est... Eh bien, telle et telle entourloupette qui a été faite par tel et tel prêtre local, par tel et tel évêque, etc., etc. Et lorsque les silencieux parlent, eh bien, ils évoqueront très facilement tel et tel incident de ce genre. Ils invoqueront telle tracasserie dont on se souvient encore et qui remonte, par exemple, au XIXe siècle, la Première Guerre mondiale, où la France était en lutte contre une puissance protestante et où les protestants français étaient considérés comme une cinquième colonne à la solde de l'Allemagne. Cela se traduit encore par la méfiance qu'ont les protestants français vis-à-vis de l'unification de l'Europe, par exemple, dans lequel on sent poindre une espèce de résurgence du Saint-Empire romain germanique et de tout ce que cela représente, tout ce que cela comporte. Mais ce qui fait la douleur du peuple protestant français, c'est que le peuple protestant français est profondément persuadé qu'il est finalement le seul, à tort ou à raison, à assumer la prédication du pur évangile dans notre pays, mais qu'il constate finalement que cette prédication n'est plus le fait, cette conviction n'est plus partagée par ses élites. Alors, à cela s'ajoute que la Bible, maintenant, a été aussi redécouverte par le catholicisme et que certains se sont dit que peut-être la redécouverte de la Bible par le catholicisme provoquerait les mêmes résultats que la redécouverte de la Bible avait eu sur Luther au XVIe siècle, c'est-à-dire une réforme interne de l'Église catholique. Pour les élites, en effet, pour certaines d'entre elles du moins, la réforme apparaît comme une solution provisoire, une parenthèse qu'il faut refermer. Que maintenant, dans la mesure où le catholicisme a redécouvert la Bible et s'est réformé à la lumière de la Bible, eh bien, le protestantisme n'a plus sa raison d'être en tant que protestantisme, qu'il n'est fécond que dans la mesure où il disparaît, où il s'intègre dans quelque chose de plus large et qui n'est plus seul donc à diffuser le pur évangile dans notre pays. Et cela provoque une crise de confiance très grave au sein du peuple protestant français, qui lui a gardé cette conscience d'être le seul à diffuser le pur message de l'évangile dans notre pays. Et devant une évolution qu'il réprouve, intuitivement, sans pouvoir l'expliciter d'une manière directe, beaucoup de ce peuple des silencieux de l'Église réagit de différentes manières. Un certain nombre d'entre eux s'accrochent quand même, espérant des temps meilleurs. D'autres rejoignent des mouvements évangéliques qui naissent soit à l'extérieur des églises officielles, et un certain nombre d'entre eux, par exemple, rejoignent des églises évangéliques vivantes, soit certains militent à l'intérieur de mouvements évangéliques au sein des églises historiques, luthériennes et réformées, tel par exemple le groupe qui s'est créé autour de la faculté de théologie d'Aix-en-Provence, ou bien des groupes d'évangélisation tels que Jeunesse en Mission, des groupes charismatiques, souvent catholiques hélas, parce que dans le protestantisme il y a fort peu de groupes charismatiques uniquement protestants, avec les dangers que ça comporte de récupération par le catholicisme. Soit dans des œuvres comme la CLC, les compagnons de l'Évangile, ou des œuvres du même type, n'est-ce pas ? Une grande majorité subit en déplorant, mais finalement en ne réagissant pas. Et enfin, un troisième groupe quitte l'Église sur la pointe des pieds, et par conséquent disparaît dans la nature. Et là, on pourrait reprendre vraiment l'image que le prophète Ézéchiel appliquait en son temps au pasteur insensé qui paissait le peuple d'Israël, qui se paissait eux-mêmes et qui n'avait pas soin des brebis malades, des brebis blessées, de celles qui souffraient, etc., qui heurtaient durement la brebis blessée. Et souvent, d'ailleurs, un certain nombre de pasteurs se plaisent à choquer leurs auditoires par des prises de position tonitruantes, n'est-ce pas ? C'est ce qu'ils appellent provoquer des interpellations. Provoque tellement des interpellations que, détruisant toutes les bases, eh bien finalement, ils détruisent la foi des gens simples, qu'ils méprisent d'ailleurs au niveau de leur grandeur très souvent, ce qui fait que beaucoup de ces gens-là, blessés, meurtris profondément en dedans d'eux-mêmes, eh bien, parfois, abandonnent tout, baissent les bras, et puis disparaissent dans la nature, ne font pas d'esclandre en général, mais s'en vont tranquillement sur la pointe du pied. Et c'est ainsi que les paroisses protestantes fondent comme beurre au soleil. Souvent, ce ne sont pas les éléments les moins intéressants qui s'en vont, hélas. Ce sont ceux qui, au contraire, auraient été prêts à aller de l'avant s'ils avaient une prédication véritablement évangélique, et qui là, ne sachant plus, ne comprenant plus l'évolution actuelle, n'ayant plus de base ni de point de repère, et bien déçus et amers, et bien se retirent. Alors, en fait, pour les élites, la prédication est essentiellement remise en question de la société. Désir de changer les structures d'une société inacceptable, de travailler pour la libération de l'homme. La prédication du salut, la prédication de l'au-delà est tournée en dérision, ou au mieux complètement occulté, complètement passé sous silence. Il s'agit en fait pour beaucoup d'entre eux d'être un homme comme les autres, parmi les autres, que rien ne distingue des autres, car pour eux Jésus-Christ finalement n'a été qu'un homme comme les autres. La dimension de divinité de Jésus est totalement éliminée. L'évangélisation n'est plus considérée comme l'annonce de l'évangile, mais comme l'engagement dans des luttes à caractère social ou même à caractère politique. Et cette évolution s'est accentuée tout particulièrement depuis mai 68. Et depuis mai 68 en particulier, un autre mouvement a eu lieu, c'est celui de l'anti-institutionnalisme de ce peuple, et notamment des jeunes. Des jeunes qui se sont mis à contester toutes les institutions. Et c'est ainsi que la plupart des mouvements de jeunesse qui avaient subsisté tant bien que mal jusqu'en mai 68 ont éclaté, tels par exemple la Fédération des étudiants chrétiens, en abrégé FEDE, les unions chrétiennes de jeunes gens, les mouvements des éclaireurs et des éclaireuses unionistes, qui ont ensuite été reconstitués après mai 68 tant bien que mal de tric et de troc, et qui ont continué à fonctionner tant bien que mal. Les diverses tentatives pour faire renaître les mouvements de jeunesse, tels que justement les unions chrétiennes de jeunes gens, sont extrêmement laborieuses actuellement au sein des églises protestantes historiques. Alors, il y a aussi des incertitudes sur la fonction de l'Église, sur l'importance de l'Église. Il y a en particulier le problème et l'incertitude pas du refus de parler de l'Évangile comme une révélation. Comme si l'Église possédait un savoir. On évite de parler de vie éternelle. On veut tout simplement ne pas manquer les grands rendez-vous de l'histoire. Et par conséquent, l'Église se contente de répéter ce que tout le monde dit, et souvent d'ailleurs en moins bien. Ce qui fait que le protestantisme ressemble à un sel qui a perdu sa saveur. Alors, à ce moment-là, beaucoup de jeunes se disent, eh bien, si être protestant c'est être un homme comme les autres, pourquoi être encore un homme protestant ? Alors, la désinstitutionnalisation, le refus de vivre sa foi ou ce qu'il en reste dans le cadre d'une église instituée, d'un mouvement de jeunesse institué, conduit finalement à la désaffection totale de la plupart des jeunes. Et c'est ainsi que nous assistons à ce vieillissement de la population protestante dont nous parlions il y a un instant, et de son émiettement démographique. Alors, une place très importante est occupé par la théologie. Mais la théologie qui n'est plus conçue comme l'étude des choses de Dieu, mais comme le lieu de la confrontation entre toutes les sciences humaines. Et c'est ainsi qu'on fera aussi bien du structuralisme, comme nous l'avons dit il y a quelque temps, que de la sociologie, que de la psychanalyse, que l'étude des problèmes de l'écologie, enfin bref, tout cela, n'est-ce pas, se trouve confronté, rassemblé, n'est-ce pas, dans une espèce de vaste bouillon de culture, où on a bien du mal, évidemment, à s'y retrouver. Pour les théologiens, la contestation est plus importante que l'affirmation. Seulement, c'est très joli, tout ça, c'est des formules qui sont très belles, mais dans la pratique, cela détruit les bases de la foi des gens qui, bien souvent, hélas, dans la plupart de ces églises-là, n'ont pas fait d'expérience suffisante pour pouvoir se récupérer. Alors, les églises protestantes, de ce fait, n'ayant plus de référence, n'ayant plus de base, se veulent pluralistes. C'est-à-dire un lieu où coexistent des points de vue extrêmement variés, extrêmement divers. Mais le problème se pose des limites de ce pluralisme. Que l'Église puisse avoir un certain pluralisme, notamment dans la vision protestante des choses, c'est une évidence. Mais quelles sont les limites de ce pluralisme ? Jusqu'à quel point peut-on encore se dire protestant quand on ne croit plus à la résurrection, quand on ne croit plus que Jésus est le Fils de Dieu, quand on ne croit plus que l'Évangile est inspiré, quand on ne croit plus que les miracles de la Bible sont des réalités historiques, et j'en passe et des meilleurs, quand on ne met plus les pieds dans une église depuis toujours, et finalement, quand même, à la limite, on ne croit plus en Dieu. Quelles sont les limites de ce pluralisme ? Il y a au sein de l'Église réformée une association qui s'appelle l'Association des chrétiens athées. Alors, quelles sont, à ce niveau-là, les limites du pluralisme ? Un autre problème, c'est aussi celui de la famille. au sein du protestantisme. Pendant, depuis le XVIe siècle, jusqu'à une époque relativement récente, le protestantisme était vécu très souvent comme une réalité familiale. Il y avait, et on en connaît, les grandes familles protestantes, les Dubois, pour ne pas les nommer, entre autres, vous connaissez les Keller, qu'est-ce qu'il y a encore, les grands noms qu'on retrouve constamment, avec des ramifications multiples en Amérique, en Suisse, dans les pays du refuge, etc. Et il y avait le sentiment très fort de ces gens-là, n'est-ce pas, d'être unis non seulement par une même foi, mais aussi justement par des liens familiaux qui étaient faits d'une histoire commune, d'un passé commun, notamment d'un passé issu justement des moments difficiles et de la persécution. Or, aujourd'hui, justement, la société moderne conduit à un éclatement justement de la notion de famille, et qui est conçue par les jeunes protestants modernes, n'est-ce pas, comme un obstacle à la liberté. Il faut donc qu'il y ait des ruptures de la famille traditionnelle, se débarrasser de toute singularité à ce niveau-là, et même être à la pointe des innovations dans le domaine de la famille. C'est ainsi qu'un des derniers synodes réformés s'est posé sur la question dite avec beaucoup d'euphémisme et pudiquement, n'est-ce pas, de la cohabitation. Comprenez, des gens qui vivent en concubinage, n'est-ce pas, qui refusent le mariage pour toutes sortes de raisons, pseudo-spirituelles, pseudo-philosophiques, et que l'Église réformée se disposait donc d'accueillir. Alors, disparaît ici la notion d'une vocation spécifique. Disparaît la notion d'une identité protestante, avant peut-être que ne disparaisse tout simplement la réalité protestante dans notre pays. Et c'est pourquoi, en conclusion, nous dirons que la situation est extrêmement préoccupante. D'abord, nous l'avons dit, au point de vue de la démographie. Deuxièmement, au point de vue d'un effort financier insuffisant et mal réparti. Au point de vue d'un manque de vitalité missionnaire. Au point de vue de l'impossibilité de diffuser le message protestant, ou de l'impossibilité, du moins de la grande difficulté de diffuser le message protestant, sans parler de tensions extrêmement vives au sein du protestantisme lui-même, sous couvert d'un pluralisme mal cerné, où se pose la question du ministère, la question des relations entre ces ministères et une base de plus en plus désorientée et de plus en plus écrasée par la difficulté qu'elle a de se faire entendre, qui conduit beaucoup d'entre eux, encore une fois, à se retirer sur la pointe du pied. De toutes les hésitations qui sont celles, justement, des responsables du protestantisme vis-à-vis de ce que doit être la stratégie générale du protestantisme, et finalement, la difficulté qu'elle partage avec les autres religions, qui est celle de vivre, la difficulté de vivre dans une société de plus en plus étrangère à l'Évangile. Alors, nous pouvons conclure que la situation n'est pas brillante. Les perspectives d'avenir ne le sont pas. Et que si l'on raisonnait à ce niveau-là humainement, eh bien, on pourrait être quelque peu découragé. Je crois qu'il nous faut maintenant conclure d'une autre manière et dire, eh bien, le protestantisme a-t-il encore une vocation, une spécificité, quelque chose d'important à apporter à la société française? Et là, il nous faut répondre oui, de manière très claire. Oui, parce qu'effectivement, il est la seule réalité capable de transmettre l'Évangile à ceux qui nous entourent, de la manière la plus pure et la plus exacte qui soit. Ce qui ne veut pas dire que il n'y ait pas des choses à redécouvrir, qu'il n'y ait pas des expériences nouvelles à faire, des réformes profondes, même éventuellement dans la compréhension du message d'Évangile, mais plus que le catholicisme, le protestantisme est capable de cette évolution, est capable de cette remise en question, et est capable de cette diffusion-là. Si bien que, si nous nous plaçons maintenant non plus d'un point de vue humain et sociologique, comme nous l'avons fait juste maintenant, mais d'un point de vue vraiment spirituel et biblique, nous dirons que le Seigneur veut encore utiliser le peuple protestant pour être un instrument de salut dans ce pays. Deuxièmement, donc il y a une volonté de Dieu très claire, très nette à ce niveau-là, c'est certain. Deuxièmement, les moyens existent. Encore une fois, au sein des églises, y compris les églises historiques, la masse du peuple protestant, dans sa piété, dans sa sensibilité profonde, est restée extrêmement saine. Et dans l'attente de quelque chose d'autre. Mais finalement, comme pour Israël autrefois, c'est le problème des vignerons. On pourrait appliquer au protestantisme français moderne la parabole des vignerons que Jésus appliquait aux pharisiens et aux sadducéens, aux chefs du peuple d'Israël. Vous connaissez la parabole du roi qui avait planté une vigne, qui l'avait remise à des vignerons et qui était venu en demander le fruit, et les vignerons qui avaient battu les serviteurs, qui avaient été envoyés par le maître, qui les avaient tués, qui les avaient chassés jusqu'à ce que finalement le maître envoie son fils unique qui lui aussi sera tué. Et la conclusion de la parabole, c'est que fera le maître de cette vigne? Eh bien, il fera périr misérablement ces misérables, ce qui n'est évidemment pas le sort que nous souhaitons au chef actuel du protestantisme français, loin de là. Et il donnera la vigne à d'autres. Alors, je ne sais pas si cette prophétie, si cette parabole s'accomplira de cette manière-là, je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas, mais ce qui est certain, c'est que là, eh bien, le peuple protestant français est conduit dans un chemin qui n'est pas celui du Seigneur, mais finalement qui ne demande qu'à être conduit dans le chemin du Seigneur. Et c'est là, je crois, qu'une vision aussi peut nous être donnée. À deux niveaux, finalement, le maître de la parabole avait envoyé des serviteurs. Et dans la bouche de Jésus, ces serviteurs sont les prophètes. C'est-à-dire des gens qui rappelaient les choses, qui rappelaient quel était le chemin, qui disaient « Voici le chemin, marchez-y ». Et il est particulièrement important que dans ce temps-ci, surgissent au sein du protestantisme français des mouvements prophétiques. Le mouvement charismatique, nous l'avons dit tout à l'heure, aurait pu l'être. Pour le moment, il ne l'a pas été. Le sera-t-il un jour? Dieu le sait. Mais pour le moment, les choses semblent être bloquées. Mais ce qui est possible, en tout cas, c'est que, en dehors du mouvement charismatique en tant que phénomène global, eh bien, des groupes charismatiques, ou non d'ailleurs, mais puisque charismatiques nous sommes, eh bien, disons, les groupes charismatiques puissent être justement des véritables mouvements prophétiques au sein du protestantisme. De façon à éventuellement ramener les vignerons au sens de leurs responsabilités, éventuellement aussi pour être battus par eux. Il faut être prêt à l'être. Mais aussi également pour pouvoir représenter éventuellement, selon le plan de Dieu, une alternative. Alors, la question par laquelle nous continuons celle-ci, le protestantisme a-t-il un avenir en France? Eh bien, ce qui est toujours extraordinaire, c'est que eh bien, Dieu, lui, n'est jamais plus dépourvu. Et finalement, l'avenir du protestantisme, il est entre les mains de Dieu, et aussi d'une certaine manière, il est entre nos mains. Comme dire, qui sommes-nous en face de toutes ces forces énormes qui nous écrasent? Mais souvenons-nous de ce que le Seigneur disait par la bouche de Jonathan quand ce dernier avait attaqué le camp des Philistins: Dieu peut sauver par un petit nombre comme il peut sauver par un grand nombre. Le propre du protestantisme français, c'est que justement il est un peuple sans puissance, sans beaucoup de moyens, comme l'était un petit peu l'église de Laodicée, de comme l'était l'église de Philadelphie, je veux dire, n'est-ce pas? Tu as peu de puissance, mais finalement, l'église de Laodicée avait été un instrument de la main de Dieu parce qu'elle avait gardé la parole de la persévérance. Or, nous avons vu, c'est l'aspiration du peuple de base, pas des élites, mais du peuple. Pas. Garder la parole de la persévérance, maintenir et rester fidèle à la vocation qui a été adressée au Père. Et précisément, l'anniversaire de la révocation est là, justement, comme certainement pour bien des protestants français, c'est un élément positif, justement. C'est pourquoi c'est bon pour nous de participer à cette exposition aussi, bien de donner à reprendre conscience de l'identité. Et c'est la raison pour laquelle je crois que ma vocation qui est la nôtre maintenant pour arriver beaucoup plus concrètement à des choses beaucoup plus concrètes, c'est d'être vraiment inséré au sein du protestantisme français, de façon à être modestement, humblement, n'est-ce pas, un signe prophétique. Et je soulignerai, je rappellerai cette parole de Thomas Roberts à Strasbourg, qui disait ceci, n'est-ce pas, je n'appartiens à aucune église, de façon à pouvoir être au service de toutes.